Bienvenidos a este informativo de Radio France.
Live with me, today's headlines.
Accent du monde. Romain Ozoui.
Bonsoir à tous, Accent du Monde. Pendant 20 minutes sur RFI, la radio mondiale dans toute sa diversité, avec le regard des différentes rédactions. Avec nous ce soir en studio, Christina Okello de la rédaction anglaise.
Good evening.
Vous nous parlerez d'un sommet sur la Libye qui s'est tenu cette semaine en Italie. Azad Avala de la rédaction persane.
Dorut Bashomo.
L'exécution par pendaison d'un homme surnommé le sultan des pièces d'or au programme pour vous. Et Stéphane Rosenbaum de la rédaction brésilienne.
Boa noite, amigos.
Et il sera question de gouvernance de l'Internet après un forum international qui s'est tenu cette semaine à Paris. Mais avant cela, le grand sujet qui vous a tous occupé cette semaine, qui nous a tous occupés, c'est le Brexit et la crise au Royaume-Uni qu'il provoque. À l'origine de cette montée de tension, un accord conclu entre le gouvernement britannique et l'Union européenne cette semaine sur les modalités du divorce. Oui, mais un texte qui, à Londres, a entraîné une levée de boucliers, y compris au sein même de l'équipe de Theresa May, puisque hier, plusieurs ministres ont démissionné. Et désormais, la chef du gouvernement britannique pourrait être visée par un vote de défiance de la part des députés de son propre camp. Alors pour le moment, Theresa May tient la barre, mais jusqu'à quand et avec quelles conséquences sur un processus qui est déjà extrêmement incertain, hein, quel Brexit. Évidemment, c'est votre titre phare, Christine.
Oui.
Christina
Okello
de la rédaction anglaise. Hier, lors d'une conférence de presse, Theresa May a dit qu'elle se battrait jusqu'au bout. Mais est-ce qu'elle peut encore réussir?
Ouais, elle est bien déterminée à le faire et plusieurs journaux britanniques le montrent, comme le Daily Mail avec cette une « Je reste pour me battre » ou bien le tabloïd Daily Express « C'est mon deal ou pas de Brexit ». Mais vendre son projet d'accord à l'opinion s'annonce difficile. Même si son ministre de l'Environnement, Michael Gove, a choisi de rester au sein du gouvernement aujourd'hui pour obtenir le meilleur résultat pour le pays selon lui, plusieurs élus conservateurs sont déterminés à faire échouer l'accord et Theresa May avec.
Mais pourquoi une telle volonté, Christina? Qu'est-ce qu'il y a de si mauvais dans cet accord?
Mais ses détracteurs reprochent à la Première ministre britannique d'avoir trahi les promesses faites au peuple. Elle avait promis de sortir de l'union douanière, mais avec cet accord, le pays y reste du moins jusqu'en 2020. Theresa May dit qu'elle veut protéger les emplois dans l'industrie, dans l'agriculture, et que son projet est mieux que rien. Écoutons-la.
The choice is clear. We can choose to leave with no deal. We can risk no Brexit.
Donc en gros, Theresa May dit que le choix est clair. Soit cet accord conforme au vote populaire de 2016, soit un clash avec l'Union européenne qui serait catastrophique pour l'économie, soit pas de Brexit du tout.
Et ce maintien de l'ensemble du Royaume-Uni dans une union douanière avec l'Union européenne est en partie pour maintenir un backstop, hein, ce soi-disant filet de sécurité avec l'Irlande du Nord.
Oui, tout à fait, parce que le backstop est conçu pour permettre à la frontière entre l'Irlande du Nord et l'Union européenne de rester ouverte sans entrave. La seule façon d'y parvenir, c'est pour le Royaume-Uni de rester au sein de l'Union douanière et de fait de rester dans le marché unique. Le problème, c'est que cette perspective ne plaît guère non plus aux députés unionistes qui craignent que l'accord laisserait l'Irlande du Nord soumise à des règles établies à Bruxelles, ce qui reviendrait à couper en deux le Royaume-Uni, à menacer Arlene Foster, les leaders du parti unioniste démocrate, dont les 10 députés sont indispensables à toute majorité pour Theresa May.
Et le temps passe pour la première ministre britannique.
En effet, elle a un mois pour convaincre Romain, mais peut se targuer néanmoins d'avoir obtenu le soutien hier du Parlement pour son accord. Cela ouvre la voie à une validation formelle du projet lors d'un sommet extraordinaire le 25 novembre prochain. Mais d'ici là, May doit tâcher de garder son poste, explique Tony Travers. Il est professeur à London School of Economics. Écoutons-le.
Well, she's got through every crisis so far. She's amazingly resilient and...
Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Tony Travers?
Tony Travers explique que Theresa May a surmonté jusqu'ici toutes les crises contre elle et fait preuve d'une grande résilience. Ses ennemis, qui sont nombreux, n'ont jamais trouvé l'astuce pour l'avancer. Maintenant, ils essaient par un vote de défiance contre la Première ministre britannique, attendu dans les jours qui viennent. Mais Travers explique que, ironiquement, elle pourrait bien remporter cette vote. Et si elle gagne, elle ne pourrait plus être contestée, au moins pendant un an. Donc, l'ironie, c'est qu'à force de vouloir faire partir la Premier ministre britannique Theresa May, ses élus conservateurs très à droite, les soi-disant Brexiteers comme Boris Johnson, risquent en fait de la renforcer. Et dans ce cas, oui, Theresa May, seule contre tous, pourrait aller jusqu'au bout.
Merci Christina. Le sort de Theresa May également dans la presse iranienne. Azad Avala de la rédaction persane. Vous avez lu les journaux, la crise politique au Royaume-Uni. Comment est-elle analysée?
La presse iranienne estime que Theresa May joue sa survie politique et son gouvernement fragilisé est au bord de l'éclatement, surtout qu'elle est sous la menace d'un vote de défiance. La presse iranienne, dans son ensemble, a publié les informations liées à cet événement sans pour autant en avoir fait une analyse sérieuse et détaillée de ses enjeux et de ses enjeux et de ses conséquences pour l'Iran. Et pour certains analystes iraniens, la finalisation du Brexit et la fin définitive des tensions entre anti- et pro-Brexit dépendent d'une solution acceptable pour tous au problème de la frontière irlandaise. Hassan Mansour, professeur d'économie en Grande-Bretagne, dit
Alors justement, qu'est-ce qu'il dit ?
Il est pratiquement impossible de trouver une solution pour le Brexit. C'est comme vouloir résoudre la quadrature du cercle, car on ne peut pas faire sortir l'Irlande de l'Union européenne tout en continuant d'y appliquer les règles européennes. En décidant de quitter l'Union européenne, le Royaume-Uni réintroduit une division sur l'île d'Irlande, met en danger l'accord du vendredi saint et peut raviver les tensions et les troubles sanglants en Irlande du Nord.
Alors, on va à présent s'intéresser aux conséquences du Brexit pour les pays que vous suivez, pour RFI, donc l'Iran, pour débuter. Qu'est-ce qui va se passer, Azadeh, après le divorce, donc après mars 2019 ?
Au lendemain de la sortie effective du Royaume-Uni de l'Union européenne, l'Iran aura deux interlocuteurs. L'impact de toutes les prises de position et des décision de l'Union européenne et de la Grande-Bretagne concernant l'Iran dépendra de la relation à venir entre l'Union européenne et les Britanniques. Les relations de longue date entre l'Iran et la Grande-Bretagne sont balisées par un grand pessimisme et une forte méfiance des Iraniens envers les objectifs déclarés ou non déclarés de la Grande-Bretagne vis-à-vis de l'Iran. Pourtant, de différents secteurs importants iraniens ont contracté avec des assureurs britanniques par le passé et par le présent. En plus, le bureau étranger de la Société nationale iranienne du pétrole est basé à Londres.
Voilà pour les enjeux du Brexit pour l'Iran. Qu'en est-il au Brésil, Stéphane Rosenbaum ?
Comment anticiper, se préparer, quels investissements prévoir, quelle stratégie adopter ? Voilà aussi les questions qui se posent les entreprises brésiliennes qui exportent pour la plupart des denrées alimentaires vers le Royaume-Uni. Jusqu'à maintenant, le Brésil se montre déçu des propositions faites par rapport à l'ajustement des droits d'importation. Avec le Brexit, aussi bien les Britanniques que les Européens devront établir de nouvelles taxes et quotas pour les produits étrangers, un processus complexe et qui peut mettre encore des mois et des mois à être résolu. Aujourd'hui, il existe un quota pour chaque produit étranger qui arrive en Europe. L'Union européenne et le Royaume-Uni se sont mis d'accord pour repartir ces quotas de façon à garantir que la quantité des denrées qui arrivaient jusqu'à maintenant continue à être la même une fois le divorce effectué.
Donc si je vous suis bien, tout va pour le mieux.
Pas exactement. Le gouvernement brésilien insiste sur le fait que le problème n'est pas seulement de maintenir les quotas. Aujourd'hui, les exportateurs brésiliens savent que quand leurs produits arrivent à un port européen, leur marchandise arrivera jusqu'à Londres sans aucun coût supplémentaire. Avec le Brexit, les coûts pour exporter vers deux marchés différents seront plus importants, ce qui rendra le produit brésilien plus cher.
Est-ce que le Brexit pourrait aussi avoir un côté positif pour le Brésil ?
Oui, si l'on entend Claudio Frederico Arruda, ambassadeur brésilien à Londres. D'après lui, après le Brexit, le lien entre les Britanniques et le Brésil sera beaucoup plus important. Arruda explique que la priorité du Royaume-Uni est maintenant de vendre une image du Brexit comme une ouverture encore plus grande des Britanniques à la mondialisation afin de consolider des nouveaux accords mondiaux.
Et puis les conséquences du Brexit dans un domaine qui est important au Brésil, c'est presque une religion, c'est le football.
Exactement, un secteur très très important pour le Brésil. La fédération anglaise, la FA, veut profiter de la sortie de l'Union européenne pour réduire le nombre de joueurs étrangers autorisés dans les effectifs professionnels des clubs de première ligue. Actuellement, la limite autorisée est de 17 sur un groupe de 25 professionnels. La FA souhaiterait réduire le nombre de joueurs étrangers à 12. Les Brésiliens vont suivre tout ça de très près.
20 degrés Paris.
Accent du monde. Romain Ouzoui.
Et oui, Accent du Monde avec ce soir la rédaction anglaise, brésilienne et persane de RFI. On va voir à présent bien ce qui a retenu votre attention au sein de vos équipes respectives. Et on commence avec vous, Christina Okello, de la rédaction donc anglaise, avec un retour sur le sommet pour la paix en Libye qui s'est tenu cette semaine en Italie. La Libye qui est plongée dans le chaos depuis 2011, depuis la chute de Muammar Kadhafi, le leader libyen. Et le dossier libyen, vous nous dites, Christina, qui est compliqué par la rivalité entre l'Italie et la France.
Oui, tout à fait, parce qu'il faut rappeler que la conférence de Palerme sur la Libye intervient 6 mois après un sommet similaire à Paris, où Rome avait reproché à la France de vouloir faire cavalier seul. Aujourd'hui, l'Italie veut reprendre contrôle du dossier libyen, mais à vrai dire, elle ne se soucie guère de la paix en Libye. Du moins, c'est ce que pense l'analyste Mitchell Belfer. Je vous propose de l'écouter.
Italy's interest and Europe's interest is about containing the migrant flow.
Que dit-il?
Belter explique que ce qui importe à l'Italie et à l'Europe en général, c'est de réduire l'immigration irrégulière. Rome est donc prêt à soutenir le premier ministre libyen, Fayez al-Sarraj, dont le gouvernement d'union nationale est reconnu à l'échelle internationale, mais à condition qu'il empêche les migrants de quitter la Libye pour en finir en Europe et la plupart du temps en Italie. Matteo Salvini, le ministre italien de l'Intérieur, est parti au Qatar juste dans cet objectif pour solliciter l'aide de Doha pour gérer les flux migratoires. Or, Qatar est l'ennemi juré de l'homme fort de la Libye, le maréchal Khalifa Haftar, qui accuse Doha de soutenir des groupes islamistes qui déstabilisent son pays.
Alors justement, le maréchal Haftar, qui a failli ne pas se rendre à ce sommet, qui donc se tenait cette semaine à Palerme en Sicile, à cause justement de cette proximité entre l'Italie et le Qatar.
Oui, c'est exact. Haftar a joué les prolongations jusqu'à la dernière minute. Il est arrivé en retard. Plusieurs heures après le début de la conférence, c'est lundi, il a boudé aussi les dîners officiels avec les autres participants et a accepté seulement de négocier avec son rival Fayez al-Sarraj uniquement en marge de la conférence. En somme, le sommet a été un échec pour l'expert Jalal Haouchi. Écoutons-le.
Nobody was expecting a success. Italy designed this event.
Jalal Haouchi, que dit-il?
Donc il dit que l'Italie a voulu prendre le dessus sur la France par rapport au processus de paix en Libye. Cette tentative s'est soldée par un échec, car aucun des chefs importants que Rome a conviés n'est venu, ni la chancelière allemande Angela Merkel, ni le président russe Vladimir Poutine. Et pire, le premier ministre italien Giuseppe Conte a dû partir in extremis en Libye pour quasiment supplier les maréchaux de venir. Ce n'est guère l'image d'un faiseur de paix que l'Italie prétend donner au monde. Haouchi rappelle aussi que le gouvernement italien est encore tout jeune et en train toujours d'apprendre les rouages du pouvoir.
Et le rôle de la France dans tout ça, au-delà des froissements d'orgueil quant au leadership diplomatique, il existe, vous nous dites, une vraie divergence dans l'approche de cette crise libyenne.
Oui, car depuis les attentats du 13 novembre 2015, Paris a privilégié l'impératif antiterroriste, cherchant des partenaires sérieux en Libye et s'est ainsi déporté vers le maréchal Haftar, alors que l'Italie mise sur Fayez al-Sarraj, le Premier ministre. Cette divergence est en train d'exacerber l'écart entre les dirigeants libyens et fait s'éloigner l'espoir d'une solution à la crise libyenne.
Voilà pour la conférence de Palerme sur la Libye donc qui s'est tenue cette semaine à Paris. En Italie, autre événement qui a eu lieu cette semaine en Iran, l'exécution par pendaison au motif de corruption sur terre. Azadeh Valla, de qui s'agit-il et quelles sont ces accusations?
Il s'agit de Vahid Mazloumi, surnommé le sultan des pièces d'or, et Mohamed Ismail Kassemi, qui était accusé d'avoir déstabilisé l'économie du pays par la perturbation du marché d'échange et des pièces d'or. Vahid Mazloumi a été accusé d'avoir créé et dirigé un réseau de marché illégal de l'or et de contrebande, de trafic et d'accumulation de devises étrangères et pièces d'or. Les deux hommes ont été qualifiés de saboteurs de l'économie et ont été accusés d'avoir manipulé les marchés et d'être responsables de la hausse brutale du prix d'achat et de vente de l'or et des devises en été dernier en profitant d'une hausse de la demande. Pourtant, d'après le représentant du procureur, Vahid Mazloumi a été arrêté en essayant de s'enfuir d'Iran en 1971. Il a été emprisonné pendant 7 mois. Encore d'après lui, en ce temps-là, on a identifié et arrêté de nombreux membres de son réseau. Mais Vahid Mazloumine et ses co-accusés ont été libérés et acquittés par la médiation de la Banque centrale qui a pris sa défense et l'a présenté comme son agent et son interface pour le contrôle du prix de dollars en Iran.
Azadeh, qu'est-ce que prévoient les lois de la République islamique sur ce sujet? Est-ce qu'on peut acheter ou vendre tout ce que l'on veut de devises étrangères et des pièces d'or, ou est-ce que sur ce point-là, il y a des restrictions?
Il n'y a aucune interdiction ou restriction établie ni par le code pénal iranien, ni par la banque centrale, ni par le gouvernement de Hassan Rouhani concernant le montant d'achat et de vente des devises étrangères et des pièces d'or.
Alors pourquoi cette précipitation des demandeurs?
En été dernier, beaucoup d'Iraniens, effrayés par la dévalorisation de plus de 60% de la monnaie internationale face au dollar, sont pressés de sécuriser leurs épargnes en achetant des devises étrangères et de l'or.
Concernant les deux hommes dont on parle, comment se fait-il qu'ils ont pu, en si peu de temps, gérer un réseau aussi puissant?
D'après le représentant du procureur, Vahid Mazloumine avait d'importants circuits relationnels et des contacts au plus haut niveau dans différents milieux et dans la banque centrale qui lui fournissait des informations.
Ils ont donc été pendus, hein, tout comme celui qui est présenté comme son complice. Comment les Iraniens et la communauté internationale réagissent face à ces exécutions?
La presse iranienne a largement couvert jeudi la pendaison de ces deux hommes et y avoue un message clair adressé aux personnes cherchant à perturber l'économie d'Iran. Quant aux Iraniens, les internautes dans leur ensemble ont condamné ces exécutions. Ils ont avant tout demandé à quoi servaient ces exécutions. Ils ont par exemple écrit « Et alors le pays sera désormais un paradis, la crise économique et la pauvreté vont disparaître ». À qui va revenir leur fortune colossale? Est-ce qu'ils ont été également condamnés à rembourser les victimes de leur fraude?
Enfin, les acteurs de l'Internet étaient cette semaine rassemblés à Paris sous l'égide des Nations Unies. C'était la 13e édition du Forum sur la gouvernance de l'Internet. Parmi les termes évoqués, Internet et les élections, c'est un sujet évidemment qui vous a intéressé du côté de la rédaction brésilienne, puisque cela renvoie à la campagne présidentielle au Brésil, où il a été beaucoup question des fake news.
Exactement. Et dans ce forum, il y avait Henrique Forhaber qui a été interviewé par RFI Brésil. Et cette année, pendant le forum, le Brésil a proposé un débat ouvert sur ce thème-là, sur le thème de l'Internet et les processus électoraux. Car comme aux États-Unis en 2016 ou lors du référendum du Brexit au Royaume-Uni, les fausses informations continuent à se multiplier sur les réseaux sociaux dès qu'une campagne est lancée. D'après Forhaber, l'élection de Jair Bolsonaro se doit surtout à l'utilisation de l'Internet, puisque il faut le rappeler que le candidat du Parti Social Libéral a eu très peu de temps d'antenne sur les télés et a été loin des médias traditionnels pendant les semaines après être poignardé. Forhaber a affirmé que la désinformation a eu un rôle très marquant lors de la dernière ligne droite des élections du Brésil.
C'est un fait qu'il y a eu fake news et
d'après lui, c'est un fait que les fake news ont existé, mais il souligne que pas seulement d'un côté, les deux côtés, le Parti Travailleur aussi. Pour lui, les fake news se répandent facilement car elles réussissent à se connecter à l'héritage émotionnel des personnes et ont un pouvoir très puissant pour gonfler le militantisme. Résultat, les gens partagent des fausses informations sans réfléchir.
Alors à l'avenir, pour tenter justement de lutter contre ces vagues de désinformation, quel devra être le rôle de la justice?
Écoute, pour Henrique Follabert, le travail de la justice et du tribunal supérieur électoral sera très important pour éviter ces pratiques dans le futur. D'ailleurs, la police judiciaire enquête toujours sur l'envoi de millions de messages de propagande via la messagerie WhatsApp, très utilisée par les Brésiliens. C'est le quotidien Folha de São Paulo qui avait révélé que des entreprises finançaient des envois en masse de messages anti-PT sur cette messagerie. Comme la loi électorale proscrit au Brésil le financement des campagnes par les entreprises, cette pratique si avérée constituerait un délit. Mais selon Forhaber, il sera très difficile de prouver un lien direct entre ces entreprises et le parti de Bolsonaro.
As informações que as ferramentas têm.
Forhaber dit que la justice va devoir déterminer justement si les paiements ont été faits par le parti, par le comité de campagne ou par des tiers. Il dit qu'il ne sait pas comment sera jugé le fait qu'une entreprise, qui apparemment n'a aucun lien avec la campagne, puisse financer des contenus à caractère politique. Ce qui est sûr, conclut Forhaber, c'est qu'on saura qui a payé et combien de messages ont été achetés. Par contre, Forhaber reconnaît qu'il sera presque impossible de savoir quel a été le contenu des messages envoyés, puisque WhatsApp crypte tous les échanges.
Eh bien, merci Stéphane Rosenbaum. Merci également à vous, Christina Okello de la rédaction anglaise et Azada Vala de la rédaction persane. Merci à vous trois. Accent du Monde touche désormais à sa fin. Rendez-vous vendredi prochain, même lieu, même heure. Valentin Vaner était à la réalisation de cette émission ce soir. Merci également à Olivier Dallage, à la rédaction en chef. Restez à l'écoute de la Radio Mondiale dans quelques instants, l'heure d'un nouveau journal.